하나님의 말씀은 히브리서 9장 11절로 22절.
La parole de Dieu se trouve dans Hébreux chapitre 9 versets 11 à 22. Nous allons lire à tour de rôle.
그리스도께서 장래 좋은 일의 대사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 곧 이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 죄로 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결케 하여 거룩해 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠 없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심으로 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 못하겠느뇨. 이를 인하여 그는 새 언약의 중보니 이는 첫 언약 때에 범한 죄를 속하려고 죽으사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하심이니라. 유언은 유언한 자가 죽어야 되나니 유언은 그 사람이 죽은 후에야 견고한 즉 유언한 자가 살아있을 때에는 언제든지 효력이 없느니라. 이러므로 첫 언약도 피 없이 세운 것이 아니니 모세가 율법대로 모든 계명을 온 백성에게 말한 후에 송아지와 염소의 피와 및 물과 붉은 양털과 우슬초를 취하여 그 책과 온 백성에게 뿌려 이르되 이는 하나님이 너에게 명하신 언약의 피라 하고 또한 이와 같이 비로소 장막과 섬기는 일에 쓰는 모든 그릇에 뿌렸느니라. 율법을 쫓아 거의 모든 물건이 피로서 정결케 되나니 빌림이 없은즉 사함이 없느니라. 아멘.
오늘 우리 Nous allons prier pour pouvoir recevoir la parole de Dieu.
오늘 하나님 사용하시는 귀한 종에게
Nous prions d'abord pour le serviteur de Dieu qui va prêcher la parole de Dieu. Pour que la volonté de Dieu soit semée en nous, prions pour recevoir la grâce de la parole de Dieu avec humilité. Dieu le Père, tu as béni ce jour saint et tu nous as donné ce commandement. Et nous avons obéi à ce commandement. Donne-nous la force et la grande foi. Je prie au nom de Jésus. Nous allons chanter d'abord tous en doux. Chantons le cantique tous en doux pour que nos âmes puissent vivre. Comme la Bible l'a dit, il ne faut pas perdre notre premier amour pour Jésus. Lorsque nous avons commencé la vie de la foi, nous étions dans une grande joie. Pourquoi nous avons perdu cette joie? Parce que nos âmes sont tombées malades. Prions, chantons le cantique tous en doux.
죄에서 자유를 얻게 함은 보혈의 능력 주의 보혈 참 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 육체의 정욕을 이길 힘은 보혈의 능력 주의 보혈 정결한 마음을 얻게 하니 참 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 보다 더 희게 맑히는 것 보혈의 능력 주의 보혈 부정한 모든 것 맑히시니 참 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다 구주의 복음을 전할 제목 보혈의 능력 주의 보혈 날마다 나에게 찬송 주니 참 놀라운 능력이로다 주의 보혈 능력이 또다 주의 피 믿어 주의 보혈 그 어린 양의 매우 귀중한 피로다
자 생명은 피에 있다 하나님의 말씀의 요약을 다
La vie se trouve dans le sang. Nous allons lire le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est unique. Il s'est fait connaître au monde. C'est ainsi qu'il a donné une promesse éternelle à ceux qui croient en lui. Les hommes ont été créés selon l'image de Dieu, à sa ressemblance. Dieu a fait en sorte que ces hommes puissent atteindre la vie éternelle en tant que créatures nées sur cette terre. Mais ils ont désobéi, alors leurs esprits sont morts. Mais Dieu a envoyé son Fils au monde pour que ce dernier devienne le sauveur des hommes. Jésus-Christ, qui était la parole, est venu dans ce monde avec le sang. La vérité de Dieu est l'évangile pour nous. Dieu a le sang et dans ce sang, il y a la vie. Toute chair possède le sang et alors grâce à ce sang, la chair vit parce que le sang contient la vie. C'est une révélation naturelle qui montre la divinité de Dieu. Le péché fait naître la mort, mais le sang possède la vie qui fait vivre la mort. C'est le Saint-Esprit qui en témoigne. Il faut comprendre la vérité et croire par le Saint-Esprit et il faut croire au sang dont témoigne le Saint-Esprit et il faut obéir au Saint-Esprit pour croire. Nos âmes n'ont pas été rachetées par le sang des animaux, mais par le sang de Jésus-Christ, par la vie qui se trouve dans ce sang, nous sommes rendus à la vie. Notre foi est une réalité, c'est une expérience absolue. Il faut recevoir la grâce de Jésus-Christ. L'homme de Jésus est l'homme du sang de Jésus. Dieu est unique. Comme la Bible en parle à nombreuses reprises, nous avons écouté la parole de Dieu concernant l'unicité de Dieu. Il y a beaucoup de religions dans ce monde. En Corée, par exemple, il y a beaucoup de religions supérieures. Mais aucune religion ne parle de Dieu. Aucune religion ne parle de Dieu unique. Si vous regardez l'encyclopédie, la foi chrétienne est définie comme la foi au Dieu unique. Alors là, le Dieu unique est déjà mentionné dans l'encyclopédie qui se trouve dans ce monde. Éveillez-vous, hein, parce que... Alors, qui sommes-nous? Si quelqu'un nous demande qui êtes-vous, nous parlons de notre nom, de notre prénom. Dans notre foi, il y a un nom et un prénom. De la même manière, dans notre foi, il y a un fondement. Alors, notre foi est fondée sur l'unicité de Dieu. Qu'est-ce que la vie éternelle? La vie de la chair n'est pas éternelle. Nous pouvons vivre environ pendant 100 ans, mais nos âmes vivent éternellement. Alors là, l'âme aura une nouvelle chair que nous pouvons toucher et voir. Nos âmes seront ressuscitées. Et vivront éternellement. Alors Jésus-Christ est mort, a été ressuscité. Et son corps ressuscité est monté dans les cieux. Environ 500 saints ont vu le Jésus ressuscité monter dans les cieux. Luc, qui a recueilli des témoignages sur l'ascension de Jésus-Christ, a écrit l'évangile de Luc pour témoigner de Jésus. Alors le Jésus qui est monté dans les cieux nous a envoyé le Saint-Esprit. Les disciples de Jésus qui ont vécu par le Saint-Esprit, qui ont travaillé par le Saint-Esprit, ont écrit les Actes des Apôtres. Ainsi, notre foi est très claire et très certaine. La vie éternelle et, nous permet de vivre éternellement. Mais il ne suffit pas de venir à l'Église pour vivre éternellement. Jean chapitre 17, verset 3. La vie éternelle consiste à connaître le Dieu unique et Jésus-Christ qui a été envoyé par ce dernier. La vie éternelle consiste à connaître le Dieu unique. Pourquoi Dieu est unique? Il y a beaucoup de dieux dans ce monde, il y a beaucoup de dieux dans cet univers. En dehors de l'univers, il y a aussi beaucoup de dieux. Mais tous ces dieux ont été créés par Dieu. Donc, ce sont des esprits créés. Mais notre Dieu, avant que les cieux soient créés, même avant l'éternité, Dieu existe. Et en Dieu, il y a eu son Fils. C'est-à-dire sa parole. Et puis, il y a aussi le Saint-Esprit qui est avec Dieu avant la création de ce monde. Avant la création de ce monde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient ensemble. Alors, Dieu a envoyé son Fils au monde, dans ce monde. Alors, ce dernier est mort sur la croix. Il a été ressuscité. Il est monté dans les cieux. Il s'est assis à la droite de Dieu. Et il nous envoie le Saint-Esprit qui sort de Dieu le Père. Et le Saint-Esprit nous transforme en étant en nous. Il nous régénère et nous donne la force pour que nous puissions évangéliser. Et pour que nous puissions conduire les hommes au royaume des cieux. C'est ainsi que le Saint-Esprit agit. Donc, Avant la création de ce monde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient ensemble. Il s'agit des dieux de la Trinité. Il est unique. Il y a beaucoup de dieux, mais aucun dieu ne possède la chair. Aucun dieu ne peut pas verser le sang parce qu'il n'a pas de sang. Ils n'ont pas de sang. Toutes choses, si nous reconnaissons que toutes choses ont été créées par Dieu, si nous croyons que le monde a été créé par Dieu, si nous reconnaissons Dieu comme le Créateur, nous pouvons nous rendre compte de la valeur du sang de Jésus. Dieu a créé toutes choses. Il appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Et il fait vivre les morts. Alors, ce Dieu a créé toutes choses. Et il a donné son sang pour que les créatures puissent vivre, pour les créatures puissent se multiplier sur la terre. Il montre ainsi son sang. Il peut nous montrer son image. Alors, le sang de Jésus est le sang de Dieu. C'est ce que nous croyons et c'est un fait très clair. Par la révélation naturelle, nous pouvons voir la divinité de Dieu. Nous pouvons voir la vie de Dieu en regardant les créatures. Dans le sang de Dieu, il y a la vie. Et c'est pourquoi il faut que nous vivions son sang pour que nous puissions avoir la vie. Il faut que nous mangions sa chair pour avoir la vie éternelle. Jean chapitre 6, versets 53 à 55. Ainsi, vous et moi croyons au sang de Dieu. Nous croyons à l'unicité de Dieu. Seul Dieu possède le sang. Aucun Dieu, même aucun ange, aucun Dieu de ce monde, aucun ange possède le sang. Seul Dieu qui a créé toutes choses a permis à toute la créature de posséder le sang. Dieu nous a montré son sang et nous croyons à ce sang. Alors Dieu nous a donné la foi. Mais pourquoi nous disons que Dieu est unique? Il y a beaucoup de dieux dans ce monde. Il y a beaucoup de dieux dans ce monde. En coréen, on peut donner beaucoup, des différents noms à ces dieux de ce monde. Vous savez qu'en hébreu, les mots en hébreu sont beaucoup moins nombreux que les mots de langue coréenne. Alors, moi, je peux utiliser même un centième des mots coréens parce qu'il y en a trop. Je pense que j'utilise moins de 20 000 mots. Et ceux qui vivent à la campagne utilisent seulement 3000 mots pendant toute leur vie. Par exemple, arrachent des herbes et travaillent au champ, par exemple. Ils n'utilisent pas beaucoup d'expressions, ils n'utilisent pas beaucoup de lexique. Alors, les mots en hébreu sont aussi limités. Dieu est Dieu. Dieu est esprit. Notre Dieu est esprit. Les démons sont aussi des esprits. Les deux diables aussi sont des esprits. Les âmes des hommes sont aussi des esprits. Les anges sont aussi des esprits. Avec le mot Elohim, nous pouvons exprimer toutes ces choses.
하나님의 신을 말하는가? 성령을 말하는가?
Si nous parlons de Dieu, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est un ange? Parce que en hébreu, il n'y a qu'un seul mot qui les exprime. Donc, il faut examiner bien la Bible et il faut bien la comprendre afin de prêcher correctement. Nous pouvons évangéliser, mais enseigner la Bible, c'est l'autre chose. Il faut faire attention lorsqu'on enseigne la Bible, parce que si nous enseignons la Bible d'une manière peu claire, nous pouvons être jugés, nous pouvons être maudits, parce que nous ne pouvons pas interpréter la Bible n'importe quelle manière. Lorsqu'on parle de Dieu, lorsqu'on parle de l'Esprit, on utilise le mot Dieu, et on utilise le mot Elohim pour... toutes ces choses. C'est pourquoi on peut être dans une confusion. Dieu est aussi mentionné comme Elohim. Et les dieux de ce monde sont aussi exprimés avec le mot Elohim. C'est pourquoi nous pouvons être confondus. Mais il faut faire attention parce que notre Dieu est unique. Il existe par lui-même. Il est éternel. Il est éternel. Alors là, si vous regardez les paroles de l'hymne national de la Corée, on utilise le mot Hanunim en coréen. Hanunim signifie un dieu de ce monde. Si on utilise le mot Hananim, c'est un terme réservé au christianisme. C'est un lexique chrétien. Pourquoi on utilise le mot Dieu? Parce qu'il est unique. Il est unique, c'est pourquoi on utilise le mot en coréen Hananim. Hananim. Il est unique, il est un Dieu unique. Alors vous et moi, nous avons obtenu la foi. Nous sommes devenus des croyants. Ce n'est pas parce que notre environnement est difficile. Donc, nous avons décidé de devenir des croyants et nous avons choisi l'Église. Mais c'est Dieu qui nous a choisis, c'est Dieu qui nous a appelés. Pour devenir membre de l'Église. J'ai écrit une thèse selon laquelle pour que quelqu'un vienne à l'Église, il faut qu'il soit évangélisé au moins 200 fois. Où moi aussi, bien sûr, il y a certains qui sont venus à l'Église. Sans être évangélisés. Mais ils ont été, ils avaient envie de venir à l'Église. Mais il n'y a personne qui est venu à l'Église de par soi-même, parce qu'il y a déjà beaucoup d'évangélisation. C'est pourquoi, à notre insu, nous avons déjà entendu parler de Dieu, bien que nous n'étions pas été évangélisés directement. Donc, nous avons entendu parler de Jésus. Même s'il n'y a eu personne qui m'a parlé de Jésus, mais nous avons été informés d'une telle ou telle manière. C'est pourquoi nous avons pu avoir l'envie d'entrer en l'Église. Alors, Alors, de toute façon, l'évangélisation avait une grande importance. Celui qui a été envoyé à prêcher et celui qui a prêché a proclamé l'évangile. Alors, nous avons entendu parler de l'évangile. Il faut absolument écouter. Et nous avons été ainsi évangélisés. Donc, l'Église, le christianisme est spécial, il est différent des religions. Dieu a parlé, alors Dieu nous a appelés, nous sommes venus à l'Église d'une telle manière. Ce que signifie l'Église? S'il y a deux ou trois personnes qui sont réunies, ça devient une assemblée, une réunion en fait. Mais l'Église, ce n'est pas un simple rassemblement des gens. S'il y a une réunion, s'il y a une assemblée, il faut avoir un certain statut. Il est important de réunir les gens et de les unir. C'est pourquoi on a mis en place des statuts. Qui reflète les avis, les différentes opinions des membres de l'Assemblée. Mais l'Église n'est pas une réunion, une assemblée. Dans l'Église, on ne peut pas faire valoir la voix humaine. Par le passé, il y a eu les grands sacrificateurs. Parmi 12 tribus, la tribu d'Aaron, fils de Moïse, a été choisi. De cette tribu, les grands sacrificateurs sont sortis. Les grands sacrificateurs s'habillaient différemment des autres. Alors, ils ont fabriqué des vêtements selon le commandement de Dieu. Lorsque les grands sacrificateurs entrent dans le temple de Dieu, ils devaient marcher d'une manière très pieuse et silencieuse. Il faut que les grands sacrificateurs marchent silencieusement. S'ils faisaient des bruits, ils ont été tués. Donc, s'ils marchaient en faisant du bruit dans le temple de Dieu, ils ont été tués immédiatement. C'était un avertissement de la part de Dieu. Dans le temple de Dieu, il ne fallait pas que la voix humaine sorte. Dans le temple de Dieu, Il ne faut pas que la vie, les opinions humaines soient manifestées. Il ne faut pas que les sentiments humains, il ne faut pas que les émotions humaines soient manifestées. Ce genre de choses doivent être transmises à Dieu par la prière. Mais il ne faut pas que ce genre de choses soient manifestées au sein de l'Église. Parce que si des choses humaines se manifestent dans le temple de Dieu, celui qui l'a fait devait être tué immédiatement. Dieu n'a pas écouté la voix de Caïn. Dieu a écouté le cri de son sang. Donc, il y a une voix qui écoute Dieu. Comme Dieu est Dieu, comme Dieu est esprit, Dieu recherche un adorateur qui adore Dieu en esprit et en vérité. Dans le monde, il y a beaucoup de réunions qui sont gérées par des statuts, mais l'Église, qui est gérée par la parole qui sort de la bouche de Dieu, qui est la parole qui est avec Dieu depuis l'éternité, avant l'éternité, alors nous y croyons, nous y obéissons. Nous suivons sa parole au sein de l'Église. L'Église n'est pas gérée par les statuts, mais l'Église est gérée par la parole de Dieu. Donc, dans l'Église est appelée Ecclesia. Répétez Ecclesia. Ecclesia. Qu'est-ce que ça signifie, Ecclesia? Il y a trois significations dans le mot Ecclesia. D'abord, Dieu nous a appelés. Il y a d'abord la voix de Dieu. Dieu nous a appelés. C'est ça, Ecclesia. Nous avons écouté la voix de Dieu. Deuxièmement, nous avons obéi, alors nous sommes réunis en obéissant à la parole de Dieu. Troisièmement, Dieu nous a choisis. Il y a trois significations dans le mot « Ecclesia ». Donc, Dieu a appelé et Dieu choisit ceux qui répondent positivement à son appel. Il y a beaucoup de monde dans ce monde. Mais ceux qui n'ont pas répondu à l'appel de Dieu n'ont pas été choisis. Dieu donne la foi, Dieu donne sa promesse à ceux qu'il a choisis en répondant à son appel positivement. Dans le monde, il y a beaucoup de réunions, beaucoup d'organisations qui sont gérées par les statuts, par des règlements. Il y a le président et le vice-président, mais l'Église est différente de ce genre de réunion. Il n'y a que Dieu, il n'y a que la parole de Dieu qui est dans l'Église. Alors, nous avons obéi à cette parole. Dieu choisit donc ceux qui ont été, ceux qui ont obéi à sa parole. Lorsque j'ai participé à l'Assemblée générale des églises, il y a eu certaines personnes qui ont élevé leur voix, mais c'était une réunion. Mais au sein de l'Église, il ne faut pas manifester ses propres opinions, ses propres sentiments. Lorsqu'on évangélise, on peut faire beaucoup d'efforts. On peut être très passionné pour l'évangélisation. C'est une bonne chose. Mais si on tombe en tentation, on s'arrête d'évangéliser parce qu'on a évangélisé avec nos propres émotions. C'est un mysticisme. Si on a évangélisé pour obéir à la parole de Dieu, on peut être récompensé. Mais si on évangélise sans nos émotions humaines, on ne peut pas être récompensé. Vous avez déjà lu la Bible. Si vous évangélisez, si vous faites des œuvres, les œuvres de Dieu avec des émotions, en se disputant avec les autres, ou avec un zèle humain, l'évangile est prêché, mais on ne peut pas être récompensé. Lorsqu'on évangélise, est-ce qu'on le fait avec nos émotions humaines ou bien par le Saint-Esprit? Si on évangélise selon nos émotions humaines, on est attaché au mysticisme. Si vous êtes trop passionné pour l'évangélisation, c'est une passion, c'est une émotion de votre part. À ce moment-là, ça n'a aucun rapport avec Dieu. Mais si on évangélise pour obéir à la parole de Dieu, si on obéit à la parole de Dieu en évangélisant, cela pourra nous amener à la vie éternelle. L'Église est très, quelque chose de très clair. Je suis allé pour la première fois à l'église méthodique de Yesan qui a été dirigée par le pasteur Ogyeong-nin. Si on n'a pas de racines, si on n'a pas d'histoire de nos passés, on ne peut que disparaître. Par exemple, des fleurs sont belles, mais si ces fleurs n'ont pas de racines, elles ne peuvent pas survivre. Est-ce qu'on on a la racine? Est-ce qu'on a le fondement? Notre racine, c'est le Dieu unique. Et nous croyons au Dieu unique et à Jésus-Christ envoyé par ce dernier. C'est ça notre fondement. Si une église est plantée, il faut que cette église possède une église mère. Si on possède le nom, c'est parce qu'on a la racine, c'est-à-dire on a des ancêtres. Donc, il faut que notre foi possède aussi une racine. L'histoire est donc importante. Le baptême monte à Jésus, le baptême par immersion monte à Jésus, tandis que le baptême par aspersion remonte au pape catholique. Donc, par le baptême, par immersion, nous pouvons avoir la racine. Qu'est-ce que là? Où se trouve notre foi? Notre foi vient de ce qu'on entend. Et qu'est-ce qu'on entend? Parce qu'il y a des prédicateurs qui ont prêché. C'est Dieu. Qui nous envoie des prédicateurs. Romains 10, chapitre 9, verset 17, notre foi vient de ce qu'on entend. Donc, le fondement de notre foi est très important. Il faut que notre foi possède une racine. Alors, vous et moi, nous avons obtenu la foi. Nous avons obtenu la vie. Ça doit être très clair. Notre Dieu est unique. Et par ce Dieu, nous obéissons et dans la Bible, il y a une femme pécheresse. Cette femme a cassé un vase d'albâtre et il a répandu des parfums aux pieds de Jésus-Christ et il a lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux. À ce moment-là, qu'est-ce que Jésus a dit? L'action de cette femme sera prêché. Là où mon nom est prêché, ce n'est pas parce que cette femme a cassé un vase d'albâtre, mais c'est parce que cette femme s'est agenouillée devant Jésus-Christ. Et cette femme s'est dédiée à Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit cette action a été prêchée là où le nom de Jésus est prêché. Donc, on utilise cette histoire comme outil de la prédication. Si on se dédie à Dieu, et alors si on plante une église, même si 100 ans, 200 ans s'écoulent, tant que cette église existe, le nom de Dieu est prêché. La dédication est très importante. C'est parce que nous sommes commémorés par Dieu si nous nous dédions à Dieu. Moi, je ne parle pas beaucoup de mon témoignage. C'est parce que je ne peux pas être récompensé à 100% sur cette terre. Donc, si c'est possible, il faut que nous soyons humbles au maximum. Si le temps vient, Dieu va nous élever. Donc, il faut se dédier selon la parole de Dieu. Mais les gens d'aujourd'hui font beaucoup de choses qui font naître la malédiction. La dîme appartient à Dieu. Les Philistins qui n'ont pas cru en Dieu existent jusqu'à aujourd'hui. Ces Philistins sont des Palestiniens d'aujourd'hui qui se battent toujours avec Israël. Ils ne croient pas en Dieu, mais leur chair existe. Il en est même pour les animaux. Les animaux vivent pour préserver leur espèce. Même si la chair prospère, l'esprit peut être maudit. Il ne faut pas agir pour être maudit. Il faut faire un effort, il faut faire des efforts pour marcher avec Dieu. Mais pourquoi vous ne marchez pas avec Dieu? Pourquoi vous ne faites aucun effort pour plaire à Dieu? Nous sommes devenus des chrétiens, c'est parce que nous avons été régénérés par le sang et par le Saint-Esprit. Nous participons à la communion pour commémorer. Si on a 5 enfants, on peut regarder la photo du passé pour commémorer son passé. En vivant du vin, nous avons vu le sang qui vient des cieux. Dans le sang, il y a la vie. Il y a la vie de Dieu. On a déjà la puissance de la résurrection. On a déjà la puissance. C'est très certain. On a la vie qui vient de Dieu. On a la promesse qui vient de Dieu. On a la puissance de la résurrection. Et on a déjà la liberté du péché, puisqu'on a vu le sang précieux de Jésus. On peut le commémorer. On s'en souvient en participant à la communion. Mais on ne se souvient pas du sang de Jésus en participant à la communion. Ça n'a aucun sens. Il faut commémorer le sang de Jésus et il faut en témoigner lorsqu'on participe à la communion. Chaque fois qu'on boit du vin et qu'on mange du pain, il faut le commémorer, il faut l'annoncer jusqu'à notre mort ou jusqu'à son avènement. Mais les gens d'aujourd'hui, bien qu'ils ont reçu le sang de Jésus, ils ne parlent pas de ce sang. Qu'est-ce que la Bible dit? C'est une parole importante. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. 1 Corinthiens chapitre 11. Verset
23.
À cause de nos péchés originels, on entre dans l'enfer. On entre dans le feu de l'enfer à cause de notre péché originel. Il y a aussi des péchés commis en pensée, en acte. Mais Jésus a pris en charge tous ces péchés. Est-ce que tu as des péchés? Je m'en charge et toi, bois mon sang. Donc la puissance du sang précieux peut effacer les péchés. Si nous avons vu le sang de Jésus, il faut en témoigner par notre bouche. Il faut confesser par notre bouche. Il y a des herbes qui sont tous mortes en hiver, mais leurs racines sont encore en vie. C'est pourquoi ils peuvent pousser au printemps. C'est une révélation naturelle. Si vous avez le sang en vous, quoi qu'elle arrive, même si la situation est différente et difficile, il faut témoigner de la vie que nous avons obtenue. Chaque fois que vous vivez ce sang et que vous mangez de la chair, vous témoignez de la mort de Jésus. Sinon, on pêche contre le corps de Jésus et on mange ses propres péchés. Il y a des faibles dans ce monde, il y a beaucoup de malades dans ce monde. Il y a un certain nombre de personnes qui meurent à cause de leur maladie, à cause de leur faiblesse. Mais si nous avons bien les soignés, si nous les avons bien soignés, ils pouvions éviter la mort. Dieu ne veut pas que nous soyons condamnés avec le monde, mais nous avons rejeté la parole de Dieu, la demande de Dieu. Même si on affirme qu'on a été sauvé par le sang de Jésus, mais si on ne témoigne pas, on boit son sang, on mange sa chair. Et si on a bu le sang précieux de Jésus, il faut en témoigner, il faut l'annoncer. Mais examinez vous-même parce que vous ne le faites pas. Et on enfreint ainsi le corps de Jésus, on pêche contre le corps de Jésus. On boit et mange ses propres péchés. S'il y a des faibles, s'il y a des malades parmi vous, c'est parce que vous n'avez pas témoigné du sang de Jésus. Il faut écouter attentivement la parole du Seigneur, il faut y obéir après l'avoir comprise. Si vous avez fait ainsi, il n'y aura pas de faibles, de malades qui sont tués. Si on ne témoigne pas, on pourra être abandonné par Dieu. Si on ne croit pas, on peut être abandonné par Dieu. Pour ne pas être condamné avec le monde, Dieu a fait en sorte qu'on commémore le sang de Jésus pour en témoigner. Mais on a abandonné cela. Pourquoi vous êtes tombé malade? Pourquoi votre prière n'est pas transmise à Dieu? Pourquoi vous êtes en difficulté? Vous pouvez être tué un jour en souffrant de maladie, en souffrant de faiblesse. C'est parce que vous avez péché contre le corps de Jésus. C'est parce que vous avez bu et mangé la chair, le sang de Jésus. Sans connaître la signification. Donc, vous avez bu et mangé vos propres péchés, alors vous êtes devenu faible et malade, alors vous mourrez ainsi. C'est un châtiment de la part de Dieu, il faut que nous comprenions donc. Pendant les Jeux olympiques asiatiques d'Incheon, pour ce genre d'événements sportifs mondiaux, il y a beaucoup de personnes qui se réunissent.
Regardez ce 거기에 사람 한 2천명이 2천명 앉아있으니 그거 다 한겨짜지만 세상에 이런 국제망신이 어디 있습니까?
En général, il y a beaucoup de personnes qui doivent participer, qui doivent comment regarder des matchs sportifs. Il y a environ 2 mois, on a entendu dire que tous les billets ont été achetés. C'est pourquoi les gens ont abandonné d'acheter des billets. Parce que tous les billets ont été achetés. Donc, mais malheureusement, il y a eu beaucoup de places vides pour des matchs sportifs pendant ces Jeux asiatiques. Donc, il y a eu une fausse information qui a été diffusée. De la même manière, s'il n'y a personne qui prêche l'évangile, qui pourra écouter? L'Église. Doit écouter Dieu, obéir à Dieu. S'il n'y a personne qui prêche, l'Église ne peut pas exister. Si l'Église ne croit pas, c'est parce qu'il n'y a personne qui prêche. On a bu le sang de Jésus, on a ainsi obtenu la vie de Dieu en vivant son sang. Alors, ceux qui ont vu le sang de Dieu n'évangélisent pas, c'est-à-dire qu'ils ne bougent pas, l'Église ne peut pas croître. Alors, ces églises se fragilisent. Donc, c'est nous qui se fragilisons et alors on est en train de mourir. Si on n'a pas vu le sang de Jésus, on est châtié par Dieu. Parce que si on ne porte pas de fruits, on est retranché par Dieu. Les gens ramassent des branches séchées pour les brûler. C'est ainsi que Dieu retranche les branches qui ne donnent pas de fruits. Donc, il faut évangéliser pour être en bonne santé. Il faut évangéliser pour prospérer. Il faut évangéliser pour éviter la mort et vivre. Ou bien, est-ce qu'on choisit de ne pas évangéliser? Alors là, on participe à la communion comme un rite religieux. Et ensuite, on choisit la mort, on choisit la faiblesse et on choisit... on choisit ainsi la mort. Ce n'est pas ma parole, mais c'est la parole du Seigneur. Nous allons lire la parole à partir du verset 26 jusqu'au 32. Lisons à tour de rôle.
다 같이 32절 시작. 우리가 판단을 받는 것은 주께 징계를 받은 것이 이는 우리와 세상과 함께 재정장을 받지 않게 하려. 이제 우리의 경고하고 있다 이 말이야.
Dieu nous a donné ainsi cet avertissement.
어떤 사람 나는 때로는요 와서 주일날마다 와서 또는
Quelqu'un vient chaque dimanche pour me voir et il me demande de prier pour lui. Voilà, je ne veux pas, je peux pas le critiquer devant lui, mais franchement, s'il a évangélisé, il aurait pu vivre selon la Bible. Mais il n'a pas obéi à la Bible, c'est pourquoi il est tombé malade. On a péché contre le corps du Seigneur. On a bu, mangé ses propres péchés. Quel est le résultat de cela? On devient faible, on tombe malade et on meurt finalement. C'est ainsi qu'on a été châtié par le Seigneur. Parce que tu retranches les branches qui ne donnent pas de fruits. Comme les semeurs ramassent des branches séchées et les brûlent, Dieu retranche les branches séchées. Par la révélation naturelle, on peut connaître la volonté de Dieu, donc il faut faire attention. Le monde méprise Jésus et les églises d'aujourd'hui méprisent les œuvres de Jésus. Mais nous, nous y croyons. Mais pourquoi vous restez encore faible? Vous tombez malade? Pourquoi vous mourrez encore? Pourquoi? Parce que vous avez péché contre le corps de Jésus. Pourquoi? Parce que vous avez bu et mangé vos propres péchés. C'est pourquoi vous avez été jugé par le Seigneur. L'Église ne croit pas, c'est très dangereux. À chaque dimanche, on crie le slogan « Mon âme fait croître l'Église ». Mais vous trompez vraiment vos propres âmes. Même si vous êtes déterminé à faire croître l'Église, par exemple, est-ce que vous agissez? À combien de personnes vous avez évangélisé? Pour sauver quelqu'un, il faut l'évangéliser, même si on est insulté et méprisé. Si on le fait continuellement, cette personne sera convaincue. Cette personne pourra nous suivre, finalement. Pendant 4 ans, l'Église, son arc, a connu une forte croissance. Elle a connu une croissance absolue pendant 4 ans. Si vous continuez d'évangéliser, vous pourrez sauver beaucoup d'âmes. Est-ce qu'on va choisir de périr? Est-ce qu'on va choisir de tomber malade, de se fragiliser pour être jugé par le Seigneur? Ou bien est-ce qu'on va choisir d'annoncer le sang de Jésus? Est-ce qu'on va choisir de témoigner du sang de Jésus pour sortir vainqueur? Si vous prenez la décision d'évangéliser pour obéir à la parole de Dieu, l'Église va croître. Le nombre de fidèles sera multiplié partout la semaine prochaine. Même si on crie le slogan « Fait croître l'Église, mon âme », vous n'agissez pas, vous ne passez pas à l'action. C'est pourquoi vous êtes ainsi fragilisé. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez prêcher le sang de Jésus? Est-ce que vous allez prêcher vraiment, annoncer le cri du sang de Jésus? Si vous avez le sang de Jésus en vous, mon témoignage est le cri du sang de Jésus. Si vous évangélisez, c'est en évangélisant, vous annoncez le cruit du sang de Jésus. Est-ce que vous allez choisir de le faire? Mais votre âme est châtiée par Dieu, c'est pourquoi votre chair se fragilise. Alors vous tombez malade. Alors vous dormez spirituellement. Ou bien est-ce que vous allez annoncer le cri du sang de Jésus? Qu'est-ce que vous allez choisir? Est-ce que vous allez choisir la faiblesse, la fragilisation spirituelle? Ou bien est-ce que vous allez annoncer le cri du sang de Jésus? Répondez à ma question. Qu'est-ce que vous allez choisir? Qu'est-ce que vous allez choisir? Dites Amen si vous avez le sang de Jésus en vous. Est-ce que vous allez annoncer le cri du sang de Jésus? Est-ce que vous voulez écouter le cri du sang de Jésus? Dieu veut que vous parliez de son sang. Est-ce que vous allez rejeter le sang de Jésus? Est-ce que vous allez être jugé par Dieu? Est-ce que vous allez choisir la fragilisation spirituelle? Alors, levez les bras si vous allez choisir la fragilisation spirituelle. Si vous allez choisir le cri du sang de Jésus, levez les bras. La Bible parle des prémices. Il faut apporter à Dieu les prémices. Il ne faut pas être tardif. C'est une révélation naturelle. Il faut donner les prémices, les premiers fruits à Dieu. Il faut donner les premiers fruits à Dieu. Il y a eu 10 vierges qui attendaient leur mari. 5 vierges ont rencontré le mari. Les 5 autres vierges ne pouvaient pas rencontrer le mari parce que la porte a été déjà fermée. Malachie chapitre 1, et il faut fermer la porte pour ces gens-là. Même si vous venez à l'église, il faut venir en avance, avant que la porte soit fermée. Alors, avant que la porte soit fermée, vous dites, ah, le sermon n'a pas encore commencé. Notre église est différente des autres. Ce n'est pas parce que vous avez écouté pendant longtemps que Dieu vous écoute. Il faut d'abord glorifier Dieu. Il faut d'abord glorifier Dieu, que Dieu le Père, qui est aussi, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. C'est ainsi qu'il faut glorifier Dieu. Et puis il faut glorifier Dieu par des cantiques. Ensuite, il faut écouter la parole de Dieu. Ensuite, nous pouvons recevoir ces bénédictions. Il faut d'abord donner à Dieu. Mais aujourd'hui, on ne donne pas d'abord à Dieu. Il ne faut pas mener la vie de la foi à sa guise. Il faut faire sa volonté, tout simplement. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous demande. Je pose la question. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que si vous avez vu le sang de Jésus, si vous êtes devenu témoin du sang de Jésus, il faut en témoigner. Il faut en témoigner. Il faut annoncer le cri du sang de Jésus et il faut chanter la vie éternelle que vous avez obtenue pour l'éternité. Ou bien, est-ce que vous allez être jugé par le Seigneur pour être rompu avec lui? Alors, vous allez choisir la faiblesse, la maladie et la paralysie spirituelle. Qu'est-ce que vous allez choisir? Parce que nous sommes déjà morts, seul le sang, et en moi, il faut donc annoncer le cri du sang de Jésus. Levez les bras si vous avez choisi d'annoncer le cri du sang de Jésus. Je ne pense pas que vous levez vos bras avec joie. Est-ce que vous allez être jugé par le Seigneur? Est-ce que vous allez choisir la fragilisation spirituelle? Il faut se réveiller. Levez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire? En fait, on ne peut pas... Il faut agir immédiatement. La croissance de l'Église est très importante. Il faut agir vite. Prenez le point. Il faut être pardonné de nos péchés par le sang de Jésus. Dites Amen si vous avez été pardonné de vos péchés par le sang de Jésus. Prenez le point. Mon âme annonce le cri du sang de Jésus. Mon âme annonce le cri du sang de Jésus. Mon âme annonce le cri du sang de Jésus. Comment vous allez vivre? Nous avons été jugés par Jésus. Jusqu'à son avènement, il faut annoncer le cri de son sang. Ou bien, est-ce que vous allez évangéliser? Est-ce que vous allez sauver les âmes? Ou bien, est-ce que vous allez choisir de vous fragiliser, de tomber malade? Nous allons prier tous ensemble. Priez de toute votre force.